À Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 6 janvier, c'est évidemment la fête, nous le savons tous, du bienheureux frère André, de son nom Alfred Bessette, un frère très humble, très simple et qui a fait de très grandes choses. C'est d'ailleurs signalé de façon très simple dans le Prions en Église. J'espère que vous êtes tous abonnés à ce Prions en Église quotidien. C'est très pratique, même si vous n'allez pas à la messe parce que vous êtes trop occupé. Vous avez au moins les lectures de la journée, les lectures que l'on fait dans toutes les églises, dans les chapelles, dans les communautés, partout à travers le monde même. Évidemment que le bienheureux frère André est surtout célébré ici, au Québec. Et on dit qu'Alfred Bessette, né en 1845 à Saint-Grégoire d'Iberville, c'est tout près de Montréal, a reçu le nom de frère André en entrant dans la congrégation de Sainte-Croix. Il était déjà une vocation presque tardive pour l'époque. Il a été porté au Collège Notre-Dame face à l'oratoire. Il a entrepris une chose absolument phénoménale, c'était de construire une chapelle, lui qui n'avait pas un sou. Une chapelle qui s'est développée et qui est devenue cette immense basilique à la gloire de Saint-Joseph et de Dieu, finalement. L'oratoire Saint-Joseph, qui a attiré très rapidement, dès le début du siècle, des milliers de pèlerins. Et jusqu'à sa mort en 1937, un 6 janvier, le frère André a été pour les blessés de la vie un agent privilégié de la miséricorde de Dieu, dit le Prions en Église. Et c'est bien exact. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il y a ici au Québec une association extrêmement intéressante qui s'occupe de mettre en valeur les fondateurs de l'Église du Canada et aussi les saints les plus récents, ou du moins les gens les plus récents, qui ont eu des vies exemplaires, et on y travaille à voir à ce qu'ils soient glorifiés par la vénérabilisation, si on peut dire, la béatification, et finalement la canonisation, c'est qu'ils soient déclarés vénérables, bienheureux, ou déclarés saints à Rome, ou du moins par le pape qui peut le faire sur place ici, comme il l'a fait dans certains cas, ou à travers le monde. C'est le comité des fondateurs de l'Église du Canada, de l'Église au Canada, devrais-je dire, qui est établi sur le boulevard Crémazie-Est au 14600. Il publie chaque année Pierre Vivante. C'est une petite revue, un bulletin, quoi, qui est extrêmement intéressant. Il y a toujours une dizaine d'articles absolument passionnants sur toutes sortes de choses qui tournent autour, justement, du frère André, ou des saints, ou des bienheureux. Et j'y relève un article qui m'a beaucoup plu, qui est paru il y a déjà quelques années. Et j'aimerais vous en lire une partie avant de commencer, car ça s'applique tout à fait au frère André. C'est les défis de notre époque. J'ai souvent remarqué combien les gens de notre temps, écrit cet auteur, ont l'air de courir après quelque chose tout en ne sachant pas après quoi. Et cela est notamment vrai chez les jeunes. Il faut être dans l'éducation, un éducateur qui écrit, il faut être dans l'éducation pour voir la détresse de plusieurs d'entre eux, qui rentrent chez eux dans une maison vide, froide, anonyme, où les deux parents sont absents, où les repas sont froids, les habits négligés, les objets à la traîne. Mais il y a pire encore, je pense à ces jeunes qui vivent en chambre, seuls ou avec un copain ou une copine, parce que leurs parents sont divorcés, séparés ou à côté. Quand les foyers sont ainsi vidés, et déstructurés. Quand les familles sont ainsi effilochées, je me dis qu'une société court à sa perte si elle tarde trop à se redresser. Et dans un sens, c'est un peu le cas du frère André, non pas parce que ses parents ne s'entendaient pas, mais ils sont morts très jeunes, il était orphelin très jeune. Je continue la lecture. Faut-il s'étonner dès lors que devant la dure réalité que je viens de décrire, un trop grand nombre des nôtres s'enfouissent dans les mondes utopiques de la drogue, du sexe et du suicide. Et mesurant l'abîme qui sépare leurs rêves de la froide réalité, n'entrevoyant aucun moyen de sortir de cette vie, qu'ils considèrent comme une impasse, ils s'auto-détruisent, ils se détruisent. Et c'était le cas de mon pauvre fils, il y a déjà près de 3 ans. Quand donc serons-nous lire dans ces comportements les signes qui trahissent le mal que nos concitoyens portent en eux et qui les fait souffrir? Et l'auteur de ce texte, qui est Maurice da Silva, continue, il est clair que nous avons affaire à une génération qui se cherche. Aussi, le premier défi de notre époque, c'est de donner un sens à sa vie. Donner un sens à sa vie. C'est tout ce que j'essaie de faire durant cette émission. Parler de gens qui ont su donner un sens à leur vie. Et tout d'abord, les saints. Et M. da Silva continue en disant, au lieu d'accumuler des expériences multiples et diverses sans liens apparents, il importe de s'interroger sur son projet d'existence. Quel projet d'existence donnons-nous à nos jeunes? Mon Dieu! Au lieu de bourdonner d'activités au jour le jour et à la petite semaine, il importe de s'interroger sur sa mission dans le monde. Ce qu'a fait le frère André. Il n'y a pas d'autre critère que la création ou l'œuvre pour établir l'existence d'une liberté. L'œuvre, c'est le travail qui a un sens. Le deuxième défi de notre époque, c'est de devenir autonome et responsable. Cela n'est pas facile, car les sociétés d'État, dans nos pays, ont tendance à proliférer, notamment celles à vocation industrielle et commerciale. Et on a avancé d'excellentes raisons pour justifier l'interventionnisme étatique, mais, ne faut-il pas craindre que cela puisse amener le citoyen à se conduire comme un enfant, attendant tout de l'État-providence, d'un État paternaliste. À force de déléguer ses droits et ses devoirs au pouvoir politique et à ses technocrates anonymes, faut-il pas craindre la perte de l'autonomie et de la responsabilité? Quand je vois la saleté des lieux publics, ajoute Maurice da Silva, et la popularité de l'expression « tout le monde le fait, fais-le donc », je constate qu'on est loin de la prise de conscience personnaliste à laquelle invitait Gabriel Marcel. Quelque chose dans le monde dépend de moi et de moi seul, disait Gabriel Marcel. Le troisième défi de notre époque, ajoute Maurice da Silva, c'est de retrouver une hiérarchie des valeurs. C'est aussi un défi de taille dans ce temps de l'histoire où les biens matériels semblent prendre toute la place. Qu'on pense à la ruée des nôtres vers la Loto 649 et aux nombreux rêves que l'on confie au hasard. C'est un lieu commun de reconnaître que notre société est en pleine mutation et qu'elle se cherche. Or, dans le bilan pastoral que les évêques du Québec ont présenté à Jean-Paul II, lors d'un de leurs voyages ad limina, c'est-à-dire à Rome, auprès du pape, je lis ce passage qui me remplit d'espoir. Voici la citation de nos évêques. « Une nouvelle culture qui affirme la consistance et l'autonomie des réalités humaines et terrestres est en voie d'élaboration. » Fin de la citation. Cette consistance, elle s'exprime d'une manière admirable dans le préambule de la Charte de la langue française, c'est-à-dire la loi 101. Ouvrons les guillemets, là. Langue distinctive d'un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d'exprimer son identité. Or, Maurice da Silva ajoute, mais pour exprimer son identité, il ne suffit pas de parler français. Il faut dire, en français, et c'est très important ce qu'il dit, quelque chose de différent que nous trouverons dans notre tradition et notre mentalité. Lesquels, toutes deux, se sont alimentés pendant plus de 3 siècles aux sources du catholicisme, même en admettant le caractère séculier pluraliste de la société québécoise actuelle. On ne peut balayer 3 siècles d'histoire. Ce nouveau rapport entre foi et culture, c'est au sein de la famille qu'il devra dorénavant s'établir. Et je dirais que c'est aussi à l'audition de bien des émissions de Radio Ville-Marie, comme celle qui vient de précéder la mienne avec Claude Bertrand. Nouvelle émission que je vous conseille, le lundi matin, 9h30, le soir à 10h30. Maurice Da Silva ajoute car si les parents sont associés à l'œuvre créatrice de Dieu, en engendrant la vie corporelle de leurs enfants, ils ont aussi pour mission d'engendrer la vie culturelle de leurs rejetons, et assurer la maturité spirituelle de ces enfants, c'est les rendre conscients. Conscients de ce don de la foi qu'ils ont reçu, et c'est les aider à retrouver une hiérarchie des valeurs pour guider leurs pas, car la famille chrétienne doit devenir aussi bien un chemin de foi qu'une école de vie. Et n'est-ce pas du reste ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, tout au long de notre histoire? Et il ajoute pour terminer, j'en veux pour témoigner les pierres vivantes, hein, c'est le nom de du bulletin, c'est le titre du bulletin, j'en veux pour témoigner les pierres vivantes qui ont édifié l'Église d'ici, Marguerite Diouville, Délia Tétrault, Émilie Gamelin, Marie-Rose Durocher, André Bessette. André Bessette, c'est le frère André. Si ces géants de la foi ont vu le jour et ont épanoui leur charisme particulier, c'est qu'ils ont trouvé dans leur famille le fondement et le support de leur identité profonde. C'est donc signé Maurice Da Silva, qui est le publiciste depuis très longtemps du Comité des fondateurs de l'Église du Canada. Je vous donne le numéro de téléphone au cas où ça intéresserait quelques personnes. 374-5981. Il y a un répondeur. Un éditorialiste, Jean-Guy Dubuc, éditorialiste autrefois à la presse à Montréal, a publié ces jours-ci Le Frère André aux éditions Fides. Jean-Guy Dubuc, il était éditorialiste autrefois. Il avait dit dans la presse du 1er février 1982 que le frère André était un héros national. Et dans un texte de Joanne Pepin paru à la fin d'un très beau livre que je vous recommande, Les fous de l'amour, il est question du frère André. Les fous de l'amour par Christian Feldmann, un Allemand. C'est paru aux éditions Pauline il y a quelques années. Il y est question de Mère Teresa, de Martin Luther King, du frère Roger Schütz, de l'évêque Oscar Romero. Et à la fin, par Joanne Pepin cette fois-ci, un texte sur le frère André. Et elle parle du héros national, le frère André, d'après Jean-Guy Dubuc. Et elle ajoute, dans un pays où la plupart du temps, les héros nationaux sont des joueurs de hockey, on peut se demander ce qu'a valu ce titre au frère André. Bien, la réponse est toute simple. Il avait littéralement une foi qui soulevait les montagnes. Sa foi en a fait un fou de l'amour. Il lui a permis d'affronter tous les obstacles qui se dressaient entre lui puis les appels de Dieu. Et c'est la foi, c'est vrai, qui nous permet d'affronter ces obstacles qui se dressent entre nous puis ce que Dieu veut de nous. Elle ajoute, l'existence du frère André nous permet de comprendre que l'amour de Dieu n'apporte pas que joie et ravissement, non, non. En suivant les différents sentiers de sa vie, on voit beaucoup de souffrances, mais aussi la sérénité, fruit de la confiance, et elle tenait ça de sa mère et de son père, mais surtout de sa mère. Et quand on pense au frère André, mais quoi? C'est l'image de l'oratoire Saint-Joseph qui se profile aussitôt en arrière-plan. Et l'oratoire attire à chaque année des centaines de milliers de pèlerins, et l'oratoire est un phénomène religieux populaire. Une visite à l'oratoire, ça permet aux gens de répondre à quoi? Dans la plupart des cas, là, à un profond besoin. Qui est de quoi? De s'approcher, de visualiser et d'expérimenter le surnaturel. Et oui, et la construction de cet oratoire Saint-Joseph a été remplie de difficultés de toutes sortes, et nous verrons ça tout à l'heure en voyant la vie du frère André Bessette, membre de la congrégation de Sainte-Croix. L'idée de bâtir une chapelle à Saint-Joseph sur le flanc du Mont-Royal est venu au frère André dans la prière. Ça part de la prière. c'est pas des idées de grandeur. C'est pas une aventure, dans le sens ordinaire du terme. C'est le fruit de la prière. Il a eu ensuite, évidemment, convaincu ses supérieurs de la valeur d'un projet qui semblait un peu étrange. Ils n'ont pas donné une réponse très enthousiaste aux frères André et les supérieurs. Mais la vie difficile qu'il avait eue avant d'entrer chez les frères de la congrégation de Sainte-Croix, où il y a les pères aussi de la congrégation de Sainte-Croix, comme on sait, et les sœurs. Mais cette vie lui avait donné de nombreuses occasions d'apprendre ce que peut être la persévérance. La persévérance. Et déjà à sa naissance, il a fallu qu'il persévère dans un sens, puis son état de santé était précaire, et cette fragilité, ça va être tout au long de sa vie une constante, ça l'empêchera pas de mourir à 91 ans. Étonnant. Il était le 8e d'une famille de 10 enfants. Je vous ai dit que ses parents étaient morts quand il était jeune. Eh bien, son père est mort quand il avait 9 ans et demi. Et puis, il est devenu orphelin à 12 ans. La famille d'Alfred Bessette, qui allait devenir le frère André, était très pauvre. Et par contre, il en a reçu, comme je vous l'ai insinué tout à l'heure, un héritage religieux très riche, très très riche. Le frère André a été marqué par la piété de sa mère. Et c'est elle qui lui a transmis la dévotion à Saint-Joseph. Ils étaient très pauvres, ils habitaient une maison d'une seule pièce à Saint-Grégoire d'Iberville. Et Saint-Joseph avait été choisi comme patron du Canada dès 1624, ce n'est pas d'aujourd'hui. On pourra fêter le 400e anniversaire dans un quart de siècle, comme on dit. Et prier Saint-Joseph était donc un élément de la culture religieuse de l'époque. Et n'oubliez pas que Sainte Thérèse d'Avila, la plus grande mystique de l'histoire de l'Église, avait une énorme dévotion à Saint-Joseph. On rapporte qu'un jour, le petit Alfred Bessette a demandé à son curé quelle prière faisait le plus plaisir au bon Dieu. Cette question, qui est bien naïve en apparence, ça témoigne de sa volonté de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est ça qui l'intéressait. Et essayer de plaire à Dieu, c'est quoi? C'est un des premiers éléments d'une fréquentation. Hein? Quand on se fréquente, on veut plaire. La foi, est-ce que c'est pas le résultat de fréquentation assidue avec Dieu? Si on fréquente Dieu, la foi grandit. Et l'amour. Et l'espérance. Et sa mère, Madame Bessette, a donc pavé la route pour ses premiers pas sur le chemin de la foi, un chemin qui passait d'abord par Saint-Joseph. Saint-Joseph, ce père adoptif de Jésus, dont le vrai père, évidemment, c'est Dieu lui-même, de toute éternité, comme je disais toujours à mon fils adoptif, depuis toujours, toujours, toujours. Oh, ça l'impressionnait quand je disais ça. Et alors, le jeune orphelin, Alfred Bessette, qui a été confié à un oncle qui était plutôt dur, doit bientôt apprendre à voler de ses propres ailes, et l'expression 36 métiers, 36 misères va prendre pour lui un sens bien réel. Ses biographes font état de diverses occupations. Imaginez, il a été garçon de ferme. C'est ce qu'il y a de plus humble sur une ferme. Ferblantier. Forgeron, c'est dur ça, c'est souvent s'occuper des chevaux et leur poser des fers, hein, et risquer des ruades. Boulanger, se lever très tôt. Cordonnier, réparer les chaussures. Journalier, on dit aujourd'hui homme à tout faire. Il ira même travailler aux États-Unis pour une courte période de temps. Et tous ces emplois-là dépassaient souvent ses forces, hein, mais il avait la réputation d'être un bon travailleur quand même. Il était sans formation, sans grande capacité physique non plus, imaginez, dans des temps difficiles en plus de ça. Alors, la vie d'Alfred Bessette était certainement pénible, hein. C'était une vie qui ne menait nulle part. Il ressemblait tellement, dans un sens, à mon pauvre fils, que mon pauvre Guy aimait beaucoup qu'on aille à l'oratoire Saint-Joseph s'agenouiller près du tombeau du frère André, ce beau tombeau noir. Et je le vois encore qui s'appuyait le front sur le tombeau et qui lui demandait je ne sais quoi. De l'aide, évidemment. Or, on retrouve le frère André, Alfred Bessette, à l'âge de 25 ans, dans un emploi de domestique, de valet. Son employeur constate qu'il s'est construit un lieu de prière imaginé dans l'écurie où il prend soin des chevaux et il y avait placé une croix. Puis à tous les soirs, Alfred Bessette allait s'agenouiller pour prier. Alors son employeur en a parlé au curé de la paroisse. Puis à partir de ce moment-là, le bon prêtre observe de plus en plus ce curieux jeune homme. Hein? C'est pas tous les jours qu'on voit un jeune homme pieux comme ça. Il y en a de nos jours, j'en connais. Et d'autres éléments s'ajoutent à ce tableau. Alors là, Alfred Bessette porte en secret quoi? Un cilice. Oh, c'est un objet de mortification qui peut, évidemment, à notre époque, être vu comme l'expression d'une espèce de goût masochiste, là, de se faire mal pour je sais pas quoi. Il faut aller au-delà des interprétations psychologiques. Je vous l'ai souvent dit quand je parle de ça, pour comprendre les relations spirituelles, puis les modes de communication qu'on peut utiliser à travers le temps. Hein. De plus, il avait manifesté ouvertement à sa sœur, une de ses sœurs, son intention d'entrer en communauté. Et voilà donc de bons indices pour le curé. Le curé a donc, avec Alfred Bessette, plusieurs fois des entretiens. Puis le curé prend la décision de conseiller à Alfred de rencontrer le supérieur du collège de Saint-Laurent. Le collège Saint-Laurent, là, c'est de Ville-Saint-Laurent. Mon père y avait fait ses études, d'ailleurs. Et c'est en 1870, finalement, qu'il est reçu comme postulant de la congrégation de Sainte-Croix. Et la même année, il passe au noviciat où on lui donne le nom de Frère André. Et l'année 1870 comporte aussi un autre fait marquant pour le Frère André. C'est en 1870 que le pape a proclamé Saint-Joseph patron de l'Église universelle. Et là, le chemin du Frère André croise encore celui de Saint-Joseph. S'il a pris le nom de André plutôt que Joseph, c'est qu'André était le prénom du curé qui l'a dirigé vers cette congrégation et qui s'en est si bien occupé. Pour l'arracher à ce chemin qui ne menait nulle part, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être des jeunes qui m'entendent et qui sont sur une route qui ne mène nulle part et qui sentent au fond d'eux-mêmes un appel à un dépassement, un amour profond pour Jésus. Un désir de se consacrer. Faites le pas quelque part, cherchez, consultez, demandez. Après une année de noviciat, les frères prononcent des vœux temporaires, comme on dit. Mais le conseil provincial de la communauté décide de ne pas admettre le frère André aux vœux temporaires, parce que sa santé n'est pas très bonne. Et on pense qu'il ne pourra pas faire profession, quoi. Cette décision a certainement fait beaucoup de peine, hein, au frère André. Et on peut se demander comment il a réussi à faire face à tout ce qui se passait en lui, des remous intérieurs. Hein. Ça devait faire mal. On ne sait pas, mais la souffrance permet la croissance. Si on lui donne un sens, hein, c'est ça la souffrance. Et quelques mois plus tard, bien, le nouveau maître des novices fait heureusement une intervention en faveur du frère André. Il souligne au supérieur l'aptitude à la prière qu'il a décernée chez le frère André. Alors on lui attribue la remarque suivante, et c'est pas bête de la part de ce nouveau maître des novices, ainsi ce jeune homme devient incapable de travailler, il sera du moins très bien prié. Et le frère André est donc admis à une profession temporaire d'un an qui lui donne ensuite accès à l'émission de ses vœux perpétuels pour jusqu'à la mort. Et en prononçant les vœux perpétuels, le frère André scelle personnellement son alliance avec Dieu. Une alliance qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Son obédience, la charge qu'on lui donne, c'est d'être portier. On lui donne aussi d'autres travaux. On lui prête un commentaire plein d'humour sur sa fonction de portier. Il dit « Après le noviciat, mes supérieurs m'ont mis à la porte et j'y suis resté. » Alors la porterie va lui donner l'occasion de s'ouvrir au monde. Et nous allons voir dans la suite comment il va s'ouvrir au monde grâce à Dieu. Ici Raymond Beaugrand-Champagne. Alors nous continuons avec le frère André qui a été mis à la porte, comme il dit. Après le noviciat, mes supérieurs m'ont mis à la porte et j'y suis resté. Il est donc resté à la porte pendant très longtemps, et à la porte du collège Notre-Dame, face à l'oratoire, sur le chemin Queen Mary. Mon Dieu, quel nom pour une rue à Montréal. Pourquoi ça s'appelle pas le chemin de l'oratoire ou le chemin du frère André? Ah, on peut pas l'appeler le boulevard Saint-Joseph, il y en a déjà un, mais ça devrait être le chemin de l'oratoire, mon Dieu. Le chemin Queen Mary. Eh bien, enfin, passons. Ce n'est pas mon propos. Je m'excuse si j'ai blessé quelqu'un, là. Alors, à la porterie, dans un collège comme ça, on fait tout et rien en même temps. Et on exécute toutes sortes de travaux qui passent presque inaperçus aux yeux des autres. Et le frère André ne ménage pas ses efforts pour accomplir toutes sortes de tâches qui lui sont confiées. Et plusieurs d'entre elles sont très exténuantes. Mais c'est drôle, le frère André, qui n'a pas une santé très forte, tient le coup. Dieu le porte. Tout comme Saint-Joseph, son labeur est obscur. Hein? Vous savez que Saint-Joseph, c'était un charpentier dans un petit village, Nazareth. Alors que on dit que certaines plantes ont un besoin vital de beaucoup de soleil, il y a d'autres plantes, comme les champignons, ça croît à l'ombre. C'est peut-être son cas, lui. Parce que la vie spirituelle, elle grandit souvent beaucoup mieux à l'ombre. Et certaines âmes s'épanouissent sans doute au grand jour, sous les yeux de tous, comme le pape ou comme le ministre des Affaires étrangères de France, Robert Schuman, dont la cause est à Rome, ou le maire de Florence, Giorgio Lapira, qu'on pense aussi à canoniser. Mais d'autres avancent vers Dieu en donnant l'impression de mener une vie insignifiante. Oui, une vie insignifiante. Et pendant plusieurs années, on peut dire que c'est dans cette deuxième catégorie que le frère André se situe. Parce que dans le monde spirituel, dans notre Église, l'insignifiance n'est pas là où l'on pense qu'elle est. Alors, j'ai été invité samedi chez des frères de l'instruction chrétienne que l'on oublie. On leur a enlevé leur responsabilité d'éducateur. Il y a déjà un bon bout de temps. Je suis allé manger avec plusieurs d'entre eux dans leur maison générale, ici à la Prairie. J'ai été bouleversé par l'intelligence, la culture, la formation, l'équilibre, le charme de la plupart d'entre eux. C'est absolument magnifique. Quelle belle communauté d'hommes simples que nous croyons qu'ils ont mené une vie. Je regrette de le dire insignifiante, mais les gens qui disent ça ne comprennent rien. En tout cas, il y a une constante qui se dégage facilement de la vie du frère André. Puis de la vie de ses frères, de l'instruction chrétienne que j'ai vue, c'est l'importance qu'ils accordent à la prière. Le frère André prie sans cesse. Il reste toujours en contact avec Dieu à travers la prière. Toutes les situations deviennent des occasions de transmettre l'amour de Dieu. Bon, la promenade avec les pensionnaires du collège, ces jeunes garçons, la surveillance sur la cour de récréation, même le bain des tout-petits, les visites aux pauvres, les rencontres avec les visiteurs. C'est toutes sortes de choses qu'il fait, ça. Il présentait Dieu aux autres. Il présentait aussi les autres à Dieu. On l'a vu souvent à genoux, à l'oratoire, caché, longtemps. Et cet aspect de sa vie de prière allait prendre des proportions considérables. Une des tâches connexes du portier, c'était quoi? C'était de visiter les malades du quartier. Alors le frère André faisait ça en y ajoutant c'est toute sa personnalité, hein, c'était coloré. C'était teinté de la dévotion à Saint-Joseph. Il avait l'habitude d'apporter aux malades un petit flacon de l'huile qui brûlait devant la statue de Saint-Joseph. Bon, il y en a qui ricanent peut-être. Moi, je ne ricane pas, j'en ai de l'huile de Saint-Joseph. Cette façon de faire, c'est pas unique, hein. Dans les sanctuaires en Europe, il est d'usage courant d'utiliser comme ça pour des fins thérapeutiques depuis des siècles, l'huile qui brûle près de l'autel. Pourquoi de l'huile, hein? C'est l'esprit dont l'huile est l'image et le symbole. C'est l'Esprit Saint qui nous vivifie. L'huile, oui. Ça se sépare pas d'une vieille histoire, aussi vieille que celle de la tente dressée par Moïse au désert, où Dieu habitait de façon tangible. Vous savez, au-dessus du propitiatoire, Dieu s'est toujours manifesté de façon tangible. Pas seulement par l'incarnation de son Fils, non. C'est curieux, hein? L'huile témoigne de Jésus, dont elle donne l'onction aussi, l'esprit. Ça se fait pas sans effort, comme à l'heure de la croix. Ce qu'elle fait, l'huile, elle symbolise. Elle est un signe. Très doux. N'oubliez pas qu'on se servait d'huile pour consacrer David et pour consacrer les rois. On se sert d'huile dans les sacrements, les plus importants souvent. Et progressivement, bien, la nouvelle se répand que le portier du collège Notre-Dame a des dons de guérisseur. Là, les malades commencent à venir le rencontrer, mais le collège Notre-Dame, c'est une institution d'enseignement, c'est pas un hôpital. Alors, tous ces malades, c'est pas vu d'un très très bon œil par les parents des élèves. Et non plus par certains frères de la communauté, religieux, prêtres, non plus. Alors là, les parents des étudiants qui fréquentent le collège font des pressions sur le supérieur afin de faire cesser ses visites. Bon. Ils craignent les maladies aussi. Et le supérieur cède. Il interdit au frère André de recevoir des malades à la porterie. Alors là, le frère obéit. Mais c'est pas bête, hein? Les malades et leurs amis n'ont pas l'intention de s'en tenir à cette décision. Et par contre, pour le frère André, bien, les guérisons ne sont pas l'élément essentiel de sa relation, évidemment, avec Saint-Joseph. Hein? Leur relation se situe à un autre niveau, celui de la prière. Il disait qu'il n'était que le petit chien de Saint-Joseph. C'est beau comme image. Hein? Ça fait ressortir clairement le type de relation qui les unissait, le frère André et Saint-Joseph. On dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme. On vante sa fidélité à son maître. Ce sont deux attributs qui qualifient bien le lien qui existe entre le frère André et Saint-Joseph. Je dis bien qu'il existe parce que je suis sûr qu'il existe toujours, dans l'éternité. Leur longue amitié s'est actualisée de bien des manières dans le quotidien. L'une d'entre elles, c'est la neuvaine à Saint-Joseph. Bien, oui, une neuvaine. On se moque de ça dans certains milieux, même catholiques. C'est une période de 9 jours. Et le fait d'entreprendre pendant 9 jours, une neuvaine, quoi, ça exige une bonne dose de confiance, comme dit Joanne Pépin dans son texte de ce livre, « Les fous de l'amour », paru aux éditions Pauline. Ça prend une dose de confiance. Parce qu'il faut accepter de continuer à prier sans avoir des résultats immédiats. Un autre signe de l'amitié que le frère André portait à Saint-Joseph, c'est la médaille, à l'effigie de ce dernier. Bon, une médaille, pourquoi pas, hein? Il recommandait aux gens de porter une médaille de Saint-Joseph. Est-ce qu'il n'est pas naturel d'avoir sur soi un objet qui nous rappelle quelqu'un qui nous est cher? Combien de gens qui ne sont pas croyants du tout portent sur eux la photo, toute petite, de leurs femmes, de leurs enfants? Et s'ils voyagent, ils prennent une chambre d'hôtel, une des premières choses qu'ils feront, c'est de sortir ces photos et de les mettre devant eux. C'est un signe. Oui, un signe. Et c'est une caractéristique de l'amitié que d'avoir le goût de faire connaître aux autres quelqu'un qu'on aime. Ce trait est omniprésent dans la vie du frère André. Et vous direz que les gens n'étaient pas toujours guéris, mais c'est sûr. D'ailleurs, vous savez que le petit Yakov, ce jeune garçon vraiment bien sympathique, le plus jeune de ceux qui ont eu des apparitions et qui ont des apparitions à Medjugorje, eh bien, il disait, quand j'étais petit, je fuyais les pèlerins. Mais maintenant, j'essaie de les accueillir, comme le frère André, quoi. Et les pèlerins sont touchés par sa compassion envers ceux qui souffrent. Et à la question, que dirais-tu à un malade ou à une famille qui a un malade? Et le jeune Yakov a eu cette réponse remarquable, il faut demander la grâce de rendre grâce. Et c'est ça qu'on apprend dans les lieux de pèlerinage. On obtient la grâce de rendre grâce en dépit de tout. Et l'affection que le frère André témoignait à Saint-Joseph, c'était pas objet de marchandage, mais plutôt le fruit d'un amour désintéressé. Le frère André disait, à propos de Saint-Joseph, il faut toujours le prier. On le prie quand on est malade, mais c'est pas suffisant. Il faut le prier tout le temps. Que des guérisons soient intervenues par l'entremise de la relation entre le frère André et Saint-Joseph, voilà un geste qui relève de la bonté infinie de Dieu. Le miracle ne se situe pas uniquement au niveau de la guérison physique du malade, je viens de vous le dire, mais plutôt et surtout dans l'augmentation de la foi qu'entraîne le fait d'accepter d'avoir confiance en Dieu. C'est ça. La grâce de rendre grâce, comme dit Yakov. Ainsi, le cœur du frère André déborde d'amour pour Saint-Joseph. Le projet de l'oratoire est une autre façon de concrétiser cet amour. Et devant le collège, se dresse le Mont-Royal, au fond le collège est même sur le presque sur le flanc du Mont-Royal. Eh bien, le frère André avait l'habitude d'aller prier là dans la montagne. Il désirait offrir ce beau site naturel à Saint-Joseph. Mais puisque leur relation était fondée sur la prière, bien, ils voulaient que ce site devienne un lieu de prière. Et c'est là qu'est né le projet de bâtir une chapelle dédiée à Saint-Joseph. Alors, la communauté de Sainte-Croix réussit à faire l'achat du terrain. Le frère André expose son projet à ses supérieurs, qui acceptent de mettre à sa disposition le menuisier du collège. C'est un bon début, ça. Et par contre, il doit lui-même se charger de trouver la main-d'œuvre, les matériaux, les ressources financières pour la construction de la chapelle. Il était dans une situation difficile. C'était un religieux qui avait fait feu de pauvreté. Il n'avait pas d'argent. Il exerçait la fonction de portier dans un collège. Il ne faisait pas partie des grands de ce monde. Sa renommée, ben, on peut dire, ça, sans vouloir être méchant, que ça se limitait aux flacons de l'huile de Saint-Joseph qu'il distribuait aux pauvres et aux malades de la paroisse. Hein? Son influence socio-politique était inexistante, c'est évident. Il était d'origine très modeste. D'ailleurs, il est apparenté à mon arrière-grand-mère. Et, parce que mon arrière-grand-mère était une Bessette de Saint-Grégoire. Et le poste qu'il occupait au sein de la communauté, ben, c'était rien, au fond. Alors, un homme que les bien-pensants considéraient comme de bien peu d'envergure, il décide de construire une chapelle sur une montagne. C'est de la témérité? Mais non, c'est de l'amour. Un amour solidement ancré dans la foi. Et accepter de vivre dans la foi, c'est accepter de se jeter dans le vide. Je répète, écoutez bien. Accepter de vivre dans la foi, c'est accepter de se jeter dans le vide. Et c'est exactement ce qu'a eu à faire le frère André pour son projet. Et dans ce vide, qu'est-ce qu'on trouve? Dieu lui-même et son amour. On trouve tout quand on fait le vide. C'est toute la spiritualité de Saint-Jean de la Croix. C'est la spiritualité de l'Évangile. Et doit-on déduire de l'expérience du frère André que lorsqu'on a la foi, tous les projets que nous entreprenons se réalisent sans effort, comme par enchantement? Ou bien doit-on y voir plutôt une application de l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera » La réponse est certainement plus près de la deuxième éventualité, car certes, la foi joue un grand rôle dans la réalisation de son projet. Elle joue un très, très grand rôle. En somme, on pourrait comparer ça à une voiture dont le frère André a pris le volant. Il dirige, mais c'est pas lui qui a fait la voiture, c'est Dieu. Il doit recueillir des fonds pour la construction de la chapelle. Le supérieur lui permet de garder, comme ça aussi, un peu d'argent qu'il tire des coupes de cheveux qu'il fait aux étudiants du collège. Ça le paie un peu. Il sollicite aussi des matériaux des marchands. Il en obtient gratuitement. Il recrute la main-d'œuvre parmi les malades guéris venus le visiter à la porterie puis des gens de la paroisse. Il obtient leur aide gratuitement. Et lui-même n'hésite pas à retrousser ses manches pour l'avancement des travaux, même si sa santé n'est pas très forte. Et le projet prend corps dans un oratoire de petite dimension où à peine 10 personnes peuvent tenir. Et là, en 1905, les pèlerinages débutent et ce phénomène va entraîner la nécessité d'agrandir puis de permettre l'accès à la chapelle en toute saison. Puis à la fin de l'automne 1908, les travaux sont terminés. Puis en 1909, le frère André reçoit une nouvelle obédience. Il devient le gardien de l'oratoire. Et nous verrons tout à l'heure comment tout ça s'achève dans la sainteté. Alors le frère André a été nommé gardien de l'oratoire. 1909. Plus tard, d'autres travaux sont mis en chantier, tels la construction d'une crypte qui s'achève en 1917. Puis avec la bénédiction de la crypte, mais tous les espoirs deviennent permis hein, de voir un jour l'édification d'une basilique immense et beaucoup plus belle qu'on le pense. Il faut la voir. Il faut voir les belles cérémonies là-bas. C'est de toute beauté. Il faut voir aussi les confessionnaux qui sont parmi les plus beaux que j'ai vus dans le monde. Ce sont des confessionnaux de Jordi Bonnet. Absolument sensationnels. Et cette grande grille de Charles Dodelin au fond, magnifique. Les croix d'Henri Charlier, les statues superbes d'Henri Charlier. C'est admirable, de très belles choses. L'agrandissement de l'oratoire a permis une augmentation du nombre des visiteurs, c'est évident, et avec eux, mais la réputation du thaumaturge, du grand guérisseur qu'avait le frère André, ne fait que s'accroître. Alors, à chaque année, le nombre de guérisons va en grandissant, à un rythme important. L'une de ces guérisons était particulièrement éclatante. En 1910, c'est fantastique ça, un citoyen de Québec d'origine irlandaise vient voir le frère André. 2 ans auparavant, il avait été victime d'un grave accident de travail. Un bloc de marbre lui avait écrasé les jambes et les pieds. Je répète, un bloc de marbre lui avait écrasé les jambes et les pieds. Après des traitements hospitaliers intensifs, il avait pu éviter l'amputation. Il avait appris à se déplacer à l'aide de béquilles. Mais la médecine ne pouvait rien faire de plus. Par contre, la foi de cet homme était très grande. C'était un Irlandais. Il avait entrepris un pèlerinage au sanctuaire de Saint-Anne-de-Beaupré, tout près de Québec. Cette démarche était infructueuse sur le plan de la santé physique, mais il n'avait pas perdu espoir de voir Dieu exaucer ses prières. Alors, il prend la décision d'aller à l'oratoire Saint-Joseph et de demander l'aide du frère André. Ce dernier l'accueille. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui frotte les jambes avec l'huile de Saint-Joseph. Vous direz, mais oui, je vous l'ai dit, l'huile, c'est le symbole de la grâce de l'Esprit-Saint, l'amour infini de Dieu. Et il prie avec lui. Le frère André lui ordonne de laisser ses béquilles et de marcher. L'homme s'exécute. Il est guéri. On doit rappeler que le frère André ne s'est jamais attribué les guérisons qui survenaient comme ça. Il affirme toujours qu'elles sont le résultat de la prière. C'est le résultat de la prière. Il rejoint ainsi la pensée de Jésus qui, après avoir guéri un malade, lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et c'est dans ce contexte qu'il faut voir les guérisons. Une guérison, c'est le fruit d'une relation profonde entre Dieu et ses fidèles, un peu comme un cadeau que Dieu donnerait spontanément et tout à fait gratuitement. Mais il faut prendre garde que le cadeau n'en vienne pas à occulter celui qui le donne. C'est Dieu, c'est l'amour de Dieu. Je vous parlerai de miracles lors de la fête de Notre-Dame de Lourdes au mois de février. On sait que le frère André est mort en 1937, le 6 janvier, à l'âge de 91 ans. Au dire de ses amis, il avait passé sa vie à parler de Dieu aux hommes. Il a parlé des hommes à Dieu. Au dire de ses amis, il avait passé sa vie, donc, à ne faire que ça. L'immense témoignage public qui a suivi, moi, ça m'impressionne encore. J'y étais. J'étais allé avec la sœur de mon père, ma tante Rose, au Grand Champagne. Et nous avions attendu pendant très longtemps, les pieds dans la neige, dans la slush, dans la gadoue, comme on dit, pour enfin passer en quelques fractions de secondes près du tombeau, dans la crypte. Jour et nuit, durant 6 jours, malgré la pluie, la neige, le froid, plus d'un million de personnes ont défilé devant son cercueil. Les services de transport de Montréal ont été débordés. Des trains spéciaux ont été mis à la disposition des pèlerins dans les provinces canadiennes et même dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Le deuil se changeait en triomphe. Et depuis 60 ans, cet humble petit frère avait aidé des milliers de personnes à dépasser leur peine pour redécouvrir l'espérance. Et le frère André, il nous enseigne quoi? C'est ça qu'il faut retenir. Il nous enseigne d'abord à prier sans cesse, avec une confiance filiale. Peu importe qu'on soit exaucé, on sera toujours exaucé d'une autre façon, car la prière nous jette dans les bras de Dieu. Où peut-on être mieux que dans les bras de Dieu? D'où jaillit le désir de faire que les choses soient justes dans la société? Le cœur de Dieu, quand il nous remplit, nous donne le goût d'agir et de faire. de répandre l'amour dans la communauté monastique où l'on vit, ou de répandre l'amour dans la ville, si l'on est dans le monde. Et par sa grande humilité, le frère André nous révèle que la sainteté est accessible à tous, quelle que soit l'origine, l'instruction, l'état de santé ou l'occupation de chacun. Réveillons-nous, devenons des saints. Je dirais qu'ils exagèrent, mais pas du tout. Nous sommes tous appelés à la sainteté, car le frère André met en lumière l'amour de Dieu à l'égard de tous, particulièrement envers les pauvres, les malades, les affligés, dont il a été l'ami fidèle. Comme religieux, le frère André nous rappelle encore la valeur de la vie consacrée au service de Jésus-Christ. Il était humble. Je m'en souviens, il était de petite taille, tout petit, comme mon père, ma mère, mes frères. Petit. Le frère André a fait de grandes choses avec l'aide de Saint-Joseph. J'étais allé le voir, le frère André, quelquefois avec ma mère. Il a établi au Mont-Royal un signe visible qui relie au fond le pèlerin à l'invisible, en proclamant les merveilles de Dieu. Or, les merveilles de Dieu sont d'abord les merveilles intérieures de la conversion, de l'abandon à Dieu. Ce qui frappe le plus chez le frère André, c'est sa simplicité. Elle se manifeste dans tous les aspects de sa vie, dans sa foi, une foi qui l'a conduit à une attitude d'abandon, justement. Il n'y a que la simplicité qui peut nous mener dans ce sentier. Car une foi qui s'alimente essentiellement là, de considérations théoriques, ça devient souvent une foi bien spéculative, on le voit chez certains théologiens. Ça ne s'enracine pas dans le quotidien. Mais la foi du frère André ressemble beaucoup à l'amour qu'un jeune enfant porte à son père. C'est fondé sur une confiance inébranlable dans le père. Le frère André ne se préoccupe pas de théologie, il est trop occupé à vivre sa foi. Son cheminement devrait nous interroger. Mettons-nous vraiment notre cœur, nos énergies, là où se trouve l'essentiel, dit Joanne Pépin dans ce beau livre. Bien oui. Les réponses du frère André sont claires. Ce qui fait la grandeur des grands cardinaux, des grands évêques, des grands théologiens de notre Église et du pape, c'est leur simplicité, leur humilité, leur amour de Dieu. À l'oratoire Saint-Joseph, on récite de belles prières à Saint-Joseph. Ô bon Saint-Joseph, ô mon tendre Père, fidèle gardien Jésus, chaste époux de la Mère de Dieu, je vous supplie, vous conjure de présenter à Dieu le Père, son Fils cloué, en croix pour les pécheurs. En son nom, trois fois saint, obtenez-nous du Père éternel la faveur que nous sollicitons et demandez-lui miséricorde pour nos enfants. Au milieu de vos splendeurs éternelles, souvenez-vous des tristesses de la terre et souvenez-vous de ceux qui souffrent, de ceux qui prient, de ceux qui pleurent, que par vos prières et celles de votre très sainte épouse Marie, Jésus réponde à notre confiance et justifie notre espérance. Amen. Au début de la messe aujourd'hui du frère André, il y a des très beaux textes. C'est le temps d'aller à la messe aujourd'hui pour honorer Dieu de nous avoir donné le frère André.